Bonjour, vous êtes avec nous pour recevoir Raphaël Granier de Cassagnac, qui porte un nombre assez impressionnant de casquettes. Rôliste, physicien des particules, écrivain, romancier, nommé Véliste, directeur d'ouvrage. Et je passe directement à ma question de tes casquettes. Laquelle préfères-tu? Celle que tu abandonnerais la plus aisément? Et s'il y en avait une à laquelle renoncer, obligatoirement, ce serait laquelle?
Alors, celle que je préfère, c'est écrivain, ça, il n'y a aucun doute. C'est quoi après? Celle à laquelle je renoncerais le plus facilement?
Ouais.
Rôliste.
Si tu devais en rôliste.
Ouais. Et la troisième, c'est quoi?
Bah, c'était ça.
Non,
il n'y en avait pas trois. Enfin,
non.
Je crois pas.
Ouais, donc non, oui.
Je ne compte plus, là.
Et c'est essentiellement lié à là où j'en suis dans les quatre, en fait. C'est-à-dire que. En termes de jeu de rôle, j'ai pas l'impression de pouvoir apporter des choses fondamentalement nouvelles. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas écrit. Je joue encore, mais ça fait longtemps que j'en ai pas écrit. En termes d'écriture, j'ai pas assez de temps pour écrire. J'ai envie de dire plus de choses, donc j'ai pas eu le temps de poser. Donc c'est ça. Le jeu de rôle, je suis allé pour moi jusqu'où je pouvais aller en termes de création. L'écriture, pas du tout. C'est le grand trou. Il y a encore plein de choses à faire. La science, ça rapporte de l'argent.
Et pas le jeu de rôle?
Le jeu de rôle, non, ça non.
C'est comme écrivain alors?
C'est pire qu'écrivain.
Ah mon dieu.
Mais le jeu de rôle, ça fait très longtemps que j'en ai pas écrit, hein, donc j'ai perdu le contact avec ça. Mais...
Et d'ailleurs, quelle place a-t-il tenu dans ta vie là, mais dès le départ, je veux dire?
Ouais, bah,
tu y es rentré comment?
Comme plein de gens parmi nous, alors non, ça c'est pas forcément comme plein de gens parmi nous, mais au collège quoi, je devais avoir 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Le jeu de rôle était en plein boom en France à ce moment-là. Il commençait à y avoir de la création française. On n'était plus que sur Donjons et Dragons en anglais. Et j'avais un oncle, que j'ai encore d'ailleurs, qui est passionné de littérature de l'imaginaire, passionné de jeux de rôle, qui en a lui-même jamais fait d'ailleurs, mais qui lisait les bouquins de jeux de rôle sans y jouer et qui a commencé à m'offrir des bouquins de jeux de rôle. Donc le début, c'est ça. Le début, c'est commencer à jouer. Et puis en fait, plus commencer à maîtriser des parties de jeux de rôle plutôt que jouer. Et ensuite c'est fondateur, hein, vraiment, parce que bon, je lisais aussi pas mal de SF et de fantasy à l'époque, mais plus, vraiment dans le contexte du jeu de rôle. Et c'est en travaillant à un projet de jeu de rôle, tu veux que je raconte tous les détails?
Bah oui.
Allez.
On est là pour ça.
C'est en travaillant à un projet de jeu de rôle sur l'univers bohème. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un univers de Mathieu Gabory qui est un peu steampunk. Et donc Mathieu avait fait un premier jeu de rôle qui s'appelait Écrime à l'époque, dans cet univers-là. Et on s'était rencontrés par Internet, qui balbutiait à l'époque. Hein. Il y avait les premiers forums, les choses comme ça. C'était pas comme aujourd'hui, quoi. C'était au millénaire précédent d'ailleurs. C'était en 1998 par là. Et donc on s'était rencontrés, puis moi j'avais joué à ce jeu, j'étais très friand de l'univers, et lui avait une envie avec d'autres gens de fabriquer un deuxième jeu de rôle dans cet univers. Donc on travaillait ensemble là-dessus, et puis je me souviens très bien, c'était vacances de Noël, je rentre chez mes grands-parents, je m'emmerdais un peu chez mes grands-parents pour dire les choses telles qu'elles étaient, et je commence à écrire un setting, ce qu'on appelle un décor pour le jeu de rôle qui était en développement. Donc c'était un décor exotique, très inspiré d'Istanbul. Et donc j'écris ça, et puis au fur et à mesure de l'écriture, donc ce qui était descriptive, hein, c'était pour donner un décor pour un jeu de rôle, donc il n'y avait pas d'histoire. Je me disais, ce serait quand même plus sympa s'il y avait une petite histoire. Donc embryon de petite histoire, petite intrigue, je pousse le truc un peu plus. Ça fait à la fin une nouvelle qui fait 60 000 signes, hein, quelque chose comme ça.
C'est la première que tu as publiée?
Et non, tu vas voir, c'est la dernière que j'ai publiée.
Celle de la Volte?
Non, encore après, j'y viens.
Pardon.
Et l'histoire se finit bien. Et donc je reviens des vacances avec ça, on se voit dans un petit groupe et tout, j'avais envoyé ça à Mathieu, puis Mathieu qui à l'époque avait déjà publié 5 ou 6 romans qui marchaient bien, il me dit mais t'écris vachement bien, ce que je soupçonnais pas vraiment en fait, je n'avais pas compris qu'en écrivant du jeu de rôle on pouvait comme ça développer des réflexes, en lisant évidemment, et puis en écrivant du jeu de rôle on pouvait commencer à développer des réflexes d'écriture qui marchent, qui fonctionnent. Et donc il me dit t'écris vachement bien, tu devrais répondre à des appels à texte. Et puis bon, l'histoire a bien commencé, parce que premier appel à texte auquel je réponds, c'était une anthologie qui s'appelait Jour de l'an 1000, donc on était tout près de l'année 2000 justement. C'était un petit éditeur qui s'appelait Nesty Venen, qui faisait Jour de l'an 1000, Jour de l'an 2000, Jour de l'an 3000, donc fantasy, fantastique et science-fiction. Et donc j'ai écrit un truc pour Jour de l'an 1000, je leur envoie, je connaissais personne, enfin je les avais croisés dans le contexte du jeu de rôle un tout petit peu.
Attention s'il vous plaît, 3
C'est vous. Et donc j'envoie le texte et il est accepté tout de suite, ce qui est assez rare. Bon, après j'en ai eu plein qui ont été refusés, hein, c'était pas vraiment. Donc voilà, donc ça m'a donné une espèce d'impulsion comme ça. Donc très dans le milieu du jeu de rôle quand même, parce qu'il y avait Mathieu, même Stevenen est un éditeur qui faisait aussi un petit peu de jeu de rôle à côté, que j'avais un petit peu rencontré par ce biais-là. Donc là c'est le début de l'histoire. Alors donc tu me demandais si c'était ma première nouvelle, non, donc c'est pas la nouvelle initiale à écrire, mais elle n'a pas du tout été publiée. Et récemment, donc il y a des gens qui ont le projet de jeu de rôle, c'est pas fait. Et récemment, il y a des gens qui ont décidé de le faire. Donc il y a un bohème, il s'appelle Bohème le jeu de rôle, donc c'est Crime 2 quoi, qui va sortir bientôt, qui a fait un crowdfunding qui a bien fonctionné. Et dans le cadre du crowdfunding, ils ont dit bah, si on dépasse tel palier, on fera un petit recueil avec des nouvelles. Et dans ce cadre-là, ils m'ont contacté en me disant bon, on est sûr que t'as pas le temps parce que ton éditeur nous a dit que t'avais pas le temps, mais si t'avais le temps, ce serait sympa si t'écrivais un petit truc. Alors j'ai dit écoutez, j'ai pas le temps, mais il y a un truc que j'ai écrit il y a 20 ans qui a. En plus, c'est une belle histoire parce que c'était lié à un projet des Crimes 2 et tout ça. Donc la boucle est bouclée, je l'ai retravaillé quand même parce que ça piquait un peu les yeux. Et ça va sortir bientôt, là, dans une anthologie chez Mnemos.
Oui, c'est un exercice tellement difficile, je vous le dis, que j'avais été contactée pour faire partie du recueil. Et j'ai cherché désespérément à rentrer dedans. Et autant j'adore le roman de Mathieu, il n'y a aucun problème. Mais moi qui ne suis que romancière et qui n'ai pratiquement jamais joué à aucun jeu de rôle, ça m'a été totalement impossible de me glisser dans dans l'habit qui n'était pas le mien. Alors que je peux habiter l'esprit de Jules Verne, mais pas un esprit aussi... ça m'amène à ma question suivante. Comment est-ce que tu fais le lien entre, tu viens de le dire partiellement, entre la narrativité du jeu de rôle et celle du roman? Est-ce que tu as fait des choses de ce genre quand tu as rédigé tes romans?
Je sais pas, parce que j'ai pas beaucoup de recul moi-même par rapport à ce que je fais, mais je pense que oui. Je pense quand même que le fait d'avoir, alors par exemple, j'ai jamais expérimenté mes histoires romanesques sur des joueurs. On peut le faire, hein, y a des gens qui font ça. Je pense que Norbert Merjanian, par exemple, a beaucoup fait ça. Il y a des gens qui font ça, moi je l'ai pas fait. J'ai pensé plusieurs fois à adapter des parties de jeux de rôle que j'ai fait avec mes joueurs en nouvelles ou en romans, mais je l'ai pas fait directement. En revanche, ça me paraît assez évident quand t'es maître du jeu dans une partie de jeu de rôle, tu proposes une histoire à des gens. Alors les gens réagissent, ce qui est pas trop le cas du lecteur en général, mais les gens réagissent, donc ça permet de tester un petit peu des idées. Et puis surtout, je crois, moi j'ai toujours voulu dans le jeu de rôle tenir mes joueurs en haleine. Tous les maîtres de jeu font pas ça, mais nous on joue encore, hein, tous les jeudis soirs. La partie finit à minuit parce qu'il y a le dernier métro et je me fais vraiment un point d'honneur à ce que mes joueurs, quand ils partent à minuit, ils partent sur un cliffhanger ou je veux pas les laisser dans le mou quoi, comme ça. Et ça, je pense que c'est un ressort que j'utilise pas mal dans l'écriture. Moi,
tout le monde sait ce que c'est qu'un cliffhanger.
Un cliffhanger,
tu sais ce que c'est un cliffhanger? Non, je t'ai vu.
Un cliffhanger, c'est quand tu laisses ton personnage... Cliffhanger, ça veut dire que tu es suspendu à une falaise, littéralement. Donc tu laisses ton personnage à la fin d'un épisode, suspendu à la falaise, et le lecteur ne sait pas ce qui va se passer après. À suivre, voilà. Exactement. Donc tu peux en imaginer tout un tas de situations de cliffhanger où on ne sait pas ce qui va se passer, et ça amène ton... Bon, dans les séries télé, c'est utilisé énormément. Ça amène ton lecteur ou ton spectateur à revenir la prochaine fois... Donc dans mon cas, à tourner et à aller lire le prochain chapitre quoi. Donc ça j'utilise pas mal, ouais, mais inconsciemment, mais je pense que ça vient vraiment de l'expérience d'avoir manipulé outrageusement des joueurs pendant des années quoi.
Et puis c'est aussi, alors là c'est la romancière que je suis qui parle, est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi un plaisir à soi? On arrête la narration à un moment où on pourrait la continuer, et puis après ça nous redonne de l'impulsion à nous aussi.
Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est jouissif, ouais, c'est jouissif aussi pour l'écrivain, c'est clair. Alors moi j'alterne beaucoup les points de vue aussi, donc c'est-à-dire que quand je laisse mon personnage en cliffhanger, je passe un autre personnage, donc il faut pas rebondir tout de suite, il faut rebondir deux chapitres plus loin. Et j'écris en général vraiment 1-2-1-2, enfin 1-2-3-1-2-3, j'écris pas l'histoire d'un personnage avant d'intercaler les autres. Donc ouais, je suis pas sûr que... Pour moi, c'est plus un truc, ouais. C'est assez conscient, quoi, comme D'accord. processus. C'est vraiment, allez, je vais essayer de me débrouiller pour que mes bouquins soient des page turners. C'est un autre terme. C'est-à-dire qu'on tourne les pages et on peut pas s'arrêter, quoi, parce que voilà, le type, il est accroché à sa falaise et on a envie de savoir s'il va tomber ou s'il va s'en sortir, quoi.
Et alors, la physique des particules dans tout ça. Comment est-ce que tu es passé du jeu de rôle à la physique des particules?
Ouais, c'est deux mondes assez différents en fait. Même si les rôlistes étaient assez scientifiques à l'époque, ça a pas mal varié d'ailleurs. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui. Quand j'ai démarré le jeu de rôle, il n'y avait que des hommes scientifiques. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes littéraires qui font du jeu de rôle. Et les deux cases qui manquent également. Je lis pas vraiment la physique avec le jeu de rôle. Je pense qu'on peut le relier avec la partie littérature, mais le jeu de rôle c'était un passe-temps quoi. C'était voilà, d'un côté tu fais des études et puis de l'autre côté tu sors le soir ou tu fais des trucs. Donc c'était plus vraiment mon hobby. Je faisais pas des jeux de rôle scientifiques du tout. C'était plutôt médiéval fantastique, un petit peu Cthulhu, mais j'aimais pas trop les jeux de rôle de science-fiction. Donc pour moi c'est assez peu lié. Ouais, c'est le jour et la nuit quoi.
Donc qu'est-ce qui t'a amené à la recherche?
Alors c'est un autre membre de ma famille. J'ai comme ça deux mentors. Non, c'est un cousin qui est ingénieur et qui travaille qui travaillait dans les lasers et qui me racontait ça quand j'étais petit. Il me racontait comment fonctionnait un laser. C'est dingue ce truc. Je trouvais ça, il le racontait bien quoi. C'était super fascinant. Et puis aussi, un jour il m'avait offert, et je l'ai encore d'ailleurs, une ampoule qui a quelque chose. Je sais même pas à quoi ça sert en fait maintenant. Il faudrait que je lui demande un jour. Une ampoule qui est à peu près grande comme ça et qui sert à quelque chose. Et c'est un très bel objet que j'ai toujours eu. Donc c'est pareil. C'est vraiment quelqu'un de ma famille que j'admirais, que j'admire toujours d'ailleurs, et qui m'a branché là-dedans. Et puis après, voilà, c'est à chaque fois qu'on m'a parlé de ça, je trouvais ça intéressant. Je me souviens très bien de la lecture d'un article de Science et Vie, qui par ailleurs n'est pas forcément très lisible, mais bon, vu de maintenant, pour moi, c'est plus très lisible. Mais quand j'étais ado, c'était très lisible. Ça devait être en 86, je pense. Un article qui parlait de la découverte du boson Z au CERN. Et qui racontait comment, à partir de cette particule, on pouvait en déduire qu'il n'y avait que trois types d'une autre particule qui existait. C'était un petit jeu. Peut-être c'est là le lien, en fait. Il y a un côté, ludique, en fait. Ouais, ça y est, c'est bon, on a trouvé. Il y a un côté ludique dans le métier de chercheur, en fait. C'est un peu un jeu de piste. On cherche des choses, on essaye des hypothèses, ça marche pas, on se balade là-dedans. Et donc voilà, je me souviens très bien de cet article. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, la physique des particules, donc en l'occurrence, m'intéresse. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de prendre un cours là-dessus, je me suis dit je vais voir, et puis j'étais pas du tout sûr que je finirais par faire ça, et puis ça m'a jamais déçu quoi en fait, de fil en aiguille, j'ai eu les opportunités de continuer là-dedans, ça, sans être forcené quoi, c'était pas une passion absolue. Pour moi il y a plein de sciences, plein de choses à faire, il y a pas un seul domaine qui est intéressant, mais là ça m'a pas déçu au fur et à mesure quoi. Ça pourrait être autre chose je pense.
Si tu devais nous faire un point sur la physique des particules pour les nuls. Ça serait sympa, peut-être.
Oui, ouais, bien sûr. Alors, donc la physique des particules, donc vraiment la physique de l'infiniment petit. On peut commencer à l'atome, ça va? Ok, donc il y a des atomes qui ont donc le fer, l'hydrogène, tout ça, c'est des atomes. À l'intérieur des atomes, il y a un noyau avec des électrons qui tournent autour. À l'intérieur des noyaux, il y a des protons et des neutrons. À l'intérieur des protons et des neutrons, il y a des quarks et des gluons. Moi je bosse là-dessus, je bosse vraiment sur les quarks et les gluons, d'où le titre.
Le gluon, ça existe vraiment?
Mais oui, ça existe vraiment.
C'est merveilleux.
Topor n'a rien. Non, c'est pour ceux qui ont connu Téléchat, une émission qui était pour la jeunesse quand j'étais jeune, justement. Il y avait des gluons et l'auteur, c'est Topor, hein, c'est ça? Oui.
C'est Topor. Ouais.
Roland Topor qui a juste repris un nom de particule qui existait, quoi. Qui ressemble un peu à ma chemise, si vous voulez. Et donc il y a des quarks et des gluons là-dedans. Et donc ça, c'est la matière dont on est fait. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'il y avait des répliques de ces choses-là. Donc des quarks, il y en a 6 en fait. Donc il y a ceux dont on est fait, ils sont 2. Il y en a 2 autres un peu plus lourds, 2 autres encore plus lourds, qui s'appellent Charme, Étrange, Top et Beauté. Pareil pour les électrons, ils ont des grands frères. Donc on a comme ça un schéma récurrent qui se détache. Et donc on a une zoologie, un peu comme le tableau de Mendeleïev, pour ceux qui connaissent, avec les différents atomes. On a la même chose en physique des particules. Il y en a 12 essentiellement, 12 particules élémentaires qui sont bien connues. Elles interagissent entre elles en échangeant d'autres particules qui sont également connues. Il y en a essentiellement de 4 types, mais les gluons, ils sont 8. Tu peux compter s'il y en a 8 dans Téléchat.
Il y avait le gluon du trou, c'est le seul dont je me souviens.
Voilà, et donc c'est un modèle qui marche diaboliquement bien, qui essentiellement, à mon âge, en gros, il a été posé en 73 dans ses grandes bases. Et depuis, il est vérifié tout le temps. À chaque fois qu'on regarde des phénomènes fondamentaux en physique des particules, ça marche. Donc dans des accélérateurs de particules, quand on essaye de fabriquer des réactions, des choses comme ça, ça marche. Donc on a un modèle qui s'appelle le modèle standard, parce qu'il marche, qui fonctionne. Il restait une brique à trouver pour que ce modèle standard soit parfait, c'est le boson de Higgs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, oui, un petit peu. Donc ça a été la quête de tous les physiciens de particules pendant des années, et il a été découvert en 2012. Après, ouais, bon, c'est vraiment, c'est une des choses qui me fascine dans mon métier, c'est ça, c'est vraiment le fait que les gens de plein de pays différents, parce que chaque pays, enfin chaque chercheur de chaque pays n'a pas l'argent de faire la recherche tout seul, se mettent ensemble pour fabriquer des machines énormes qui sont comparables aux cathédrales. C'est un peu le même genre d'échelle de temps qui sont en jeu, un peu moins peut-être, le même genre de métier qu'il faut amener, le même genre de complexité. Cette machine, donc au CERN, le LHC a été construit d'abord pour voir le boson de Higgs, éventuellement pour voir autre chose, et on en est à un point où on a vu le boson de Higgs. Donc le modèle standard est complètement fermé, toutes les particules sont là, tout baigne, et on n'a rien trouvé d'autre qui viendrait rompre ce modèle. Donc on a un modèle qui marche super bien, en fait. Alors, oh. Après, il y a des petits trucs qui ne marchent pas, hein, bien sûr. Mais...
Alors, pour reparler du modèle standard, je vous conseille également d'aller voir l'expo de masse,
oui,
qui est consacrée au modèle standard. C'est une expo qui se retrouve dans le fond, là-bas, sur la droite, contre le mur. C'est un très grand dessinateur qui s'est intéressé à la physique et donc au modèle standard, et c'est très bien, très drôle et très très beau.
Alors peut-être juste rajouter un truc, parce que j'étais pessimiste. Les gens qui font de l'astro, donc de la cosmologie, ou qui regardent le ciel, soupçonnent très fortement qu'il y a des choses au-delà du modèle standard. Il doit y avoir d'autres particules, sinon l'univers pourrait pas être tel qu'on l'observe à grande échelle. Et donc on a l'espoir à petite échelle, dans l'infiniment petit, d'un jour découvrir ces particules. Donc on a ce modèle qui marche super bien. Mais il y a un truc dans l'univers, plusieurs trucs, hein, dans l'univers qu'on comprend pas, et on a encore l'espoir quand même de découvrir tout un tas de choses au LHC et au-delà, quoi.
Et toi et ton équipe, vous cherchez quoi actuellement, si c'est pas un secret d'État ?
Non, c'est pas du tout un secret. Non, tout ça c'est archi public. Tout ce qu'on fait, il y a aucun secret. Ça reste secret tant qu'on n'est pas sûr de notre coup, en général, sauf des fois il y a des fuites. Hein. Mais non, c'est pas secret du tout. Moi, je travaille sur ce qu'on appelle le plasma de quark et de gluon, qui est un
état. Tu peux répéter ?
Le plasma. Plasma, vous voyez, un truc avec beaucoup d'agitation, c'est chaud, il fait chaud, on est bien, de quarks et de gluons. Donc les quarks sont les particules qui composent les protons et les neutrons, et les gluons, c'est, comme leur nom l'indique un petit peu, c'est les particules qui collent les quarks ensemble. Et donc il y a une prédiction théorique assez forte qui dit que si on arrive à comprimer ou à chauffer des protons et des neutrons, ce qui n'est pas facile, les protons et les neutrons doivent fondre, il n'y a plus de protons et de neutrons, il y a une soupe, un plasma, où les quarks et gluons sont libres et se baladent librement. Alors c'est d'autant plus rigolo que si on croit au scénario du Big Bang, et tous les scientifiques y croient maintenant, à part quelques farfelus, le Big Bang, vous voyez, c'est si on remonte le temps, l'univers était infiniment petit, infiniment chaud, toute la matière était au même endroit, il y a un moment dans l'histoire du Big Bang où tout l'univers était un plasma de quarks et de gluons. Donc notre sujet de recherche, c'est de recréer dans le laboratoire une petite goutte, infime, toute petite, très fugitive, de ce truc-là, d'étudier les propriétés pour essayer de comprendre un petit peu... alors ça donne beaucoup d'informations sur la théorie des gluons, quoi, la théorie qui colle les choses ensemble, et un petit peu sur ce que pouvait être l'univers au tout début, quoi.
Merci.
Et alors, ça va, vous n'êtes pas trop endormi ?
Écoute, moi j'ai compris, donc il y a des chances que ça ait suivi. Alors, on va passer à ta casquette de romancier, enfin d'écrivain. Tu as écrit des nouvelles, tu as écrit des romans. Mmh. Tu te sens à l'aise dans lequel, plus précisément, ou c'est pareil ?
Non, c'est pareil pour moi. Il n'y a pas de... Enfin non, c'est pas du tout pareil. mais moi, je me sens à l'aise ou pas à l'aise. D'ailleurs, plutôt pas à l'aise dans les deux, quoi. C'est pas la même chose, évidemment. Hein. Pour moi, une nouvelle, il faut alors c'est pas toutes les nouvelles sont pas comme ça, mais il faut une chute énorme. Il faut un truc à la fin qui change tout. Mais c'est pas obligatoire. Alors que dans le roman, au contraire, il faut finir sur une. Remarque, je dis ça, mais mes romans, ils font le contraire, hein, je crois. Il faut c'est plus sur la durée, puis il faut amener à une fin plus douce. Alors, évidemment, le rythme est pas le même, parce que sur un roman, on peut s'étendre sur. Enfin, on garde le lecteur plus longtemps avec soi. Non, moi j'aime bien les deux. Après, il y a une question de temps d'écriture, évidemment, qui joue pas mal. Écrire une nouvelle, ça se fait vite. Écrire un roman, pour moi, c'est un enfer. Ça prend vraiment très longtemps.
Alors, tu ne mets pas énormément de science dure,
non,
dans tes romans, voire pas du tout. C'est plutôt de la sociologie de la science, ouais, je dirais. C'est donc délibéré. Rien qu'à ta tête, c'est délibéré. Alors, c'est parce que tu as envie d'autre chose après le labo ou...
Ouais, ou c'est essentiellement ça. Et c'est aussi, j'ai commencé, on l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé par écrire de la fantasy. Donc les premières choses que j'ai écrites, c'était vraiment le plus loin possible qu'on puisse imaginer de la science dans les littératures de l'imaginaire, quoi. Donc clairement, c'était d'abord une volonté d'évasion, d'aller faire autre chose, d'aller écrire autre chose, de s'intéresser à autre chose. Après, il se trouve que, alors les nouvelles sont dans plusieurs styles, mais il se trouve que mes romans sont quand même des romans de science-fiction, mais comme tu dis, pas de hard science. Donc il se trouve que ça m'a un petit peu rattrapé. Si on me demandait demain d'écrire, et d'ailleurs on me le demande un petit peu, donc c'est, j'y pense là, si on me demandait demain d'écrire un truc avec du plasma de Quarquet de Lyon ou le CERN ou des choses comme ça, je serais très très emmerdé. Parce que je connais quoi. Et donc je suis bridé par mon savoir du truc. J'aurais beaucoup de mal à extrapoler, à faire autre chose que ce qui est réel. Donc j'aurais presque plus envie de faire du journalisme là-dessus que de la fiction quoi. Alors évidemment, je pourrais toujours faire... Mais je me vois pas fabriquer un moteur qui marcherait, un moteur spatial qui marcherait avec des trucs avec lesquels je travaille, parce que je sais que c'est pas possible. Donc il faudrait faire une grosse rupture, une grosse avancée. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un frein, ouais. Par contre, je me vois bien, et ben d'ailleurs je l'ai fait un petit peu, hein, je me vois bien utiliser d'autres champs de science que le mien. Dans mes bouquins, il y a plus de cybernétique, de biologie, que de physique des particules, mais même de physique dure, quoi.
Et pourtant, tu sais bien que les spécialistes de ces sciences-là pourraient être bridés par leur savoir de que c'est impossible.
Oui, bien sûr.
Et donc, attends, je ne vais pas totalement... Excuse-moi. Du coup, est-ce que tu ne pourrais pas ignorer délibérément quelque chose?
Tu veux dire ignorer quelque chose de ma science pour...
Oui, ignorer délibérément, la mettre de côté.
Ouais, j'y viendrai peut-être, mais non.
Mais non.
Enfin, pas pour le moment, pas pour le moment. Non, j'y viendrai peut-être, mais pour moi, il y a... Alors, il y a une autre chose, c'est que là, en ce moment, je regarde des trucs assez scientifiques pour mon prochain roman, et j'apprends, en fait, et ça, c'est génial. Donc, je me documente sur la science que je veux mettre dedans, et je prends des libertés. Ouais, mais j'aurais du mal à le faire avec ma science. D'abord, il n'y aurait pas la phase d'apprentissage, enfin, très peu. Donc, il faudrait que je parte demain, voilà. Il faudrait que demain, je dis, ok, bah, qu'est-ce que je vais faire avec la physique des particules sur une hypothèse science-fictionnelle Il y a des tas de gens qui font ça beaucoup mieux, quoi, qui ont des idées très rigolotes avec des choses auxquelles j'aurais jamais pensé parce que pour moi c'est pas possible. C'est pas un frein absolu, hein, c'est aussi que j'ai pas le temps d'écrire tout ce que je pourrais écrire, mais non, pour moi c'est un frein. D'ailleurs, je sais pas, hein, toi qui es un puits de science.
ça sent le piège à plein nez, ça.
Non, je sais pas s'il y a beaucoup de. Il y en a pas mal, hein, des scientifiques qui écrivent de la science-fiction. Je sais pas s'il y en a qui. Peut-être David Brin, non, il est. Qui ont écrit vraiment dans leur champ de science à eux.
Alors je sais qu'il a beaucoup écrit avec Ben Ford, notamment pour Au cœur de la comète, ouais. Et que là-dedans il y a plein de biologie dans mon souvenir.
Ouais, mais il est astrophysicien, David.
Par contre, dans Au cœur de la comète, tu as tout le travail des astronautes qui débarquent sur la comète. Il y a tout le voyage que fait la comète de Halley et qui est décrit, ses rapports avec le Soleil, enfin, etc. Dans ses romans de science-fiction autres, Brin, il est plus axé sur le sociologique, sur effectivement les rapports entre les extraterrestres, les animaux qu'on élève, etc. Il préfère. Mais si tu prends Asimov, voilà, on est dans l'exemple type du type qui a utilisé sa science pour faire sa littérature.
Oui, c'est vrai. L'exemple était le plus évident. Ouais.
Mais il y a longtemps eu une... Enfin, tu me contrediras peut-être, hein, une idée qu'il y a une certaine littérature d'ingénieurs et de physiciens qui n'est pas forcément toujours simple narrativement. Ouais. Voilà. Et typiquement, tiens, Egan. Ouais. Voilà. Si on me cherche sur les listes, ça devient affreux, je me tais. J'arrête.
Non, ouais, on va repartir sur bêtise, lui. J'aurais dû le...
Non, il ne fallait pas me lancer. Alors... écoute, on vérifie après... Tu sais,
Simon Asimov était-il biologiste?
Mathieu.
Chimiste. Il était chimiste, donc chimiste. Voilà, donc on n'est pas.
Ah, parce que
merci.
T'es là, toi.
Il est. C'est mon consultant.
Alors, on va
Simon
revenir.
Simon Bréant.
Un de nos grands modérateurs, pas comme moi. Moi, je suis nul en modération. Eternity Incorporated. La genèse, s'il te plaît.
Ouais, alors ça, c'est mon premier roman. Enfin, je l'ai déjà raconté et je le re-raconte.
Ah bah, vous étiez pas là. Voilà.
Donc, non, mais je l'ai même raconté ici, enfin, dans ce festival. Mais Peu importe. Donc le alors c'est très marqué la genèse du truc. Ça a pris beaucoup d'années au final, hein, mais le truc est extrêmement marqué à un moment précis. J'allais au CERN justement, c'est peut-être pas un hasard. J'étais dans le train, dans le TGV pour aller au CERN et je lisais les particules élémentaires de Welbeck. Ça peut paraître assez éloigné du sujet. Et je sais pas si vous l'avez lu, mais il y a à la fin des particules élémentaires un chapitre de pure science-fiction, en rupture totale avec le reste du récit. C'est un prolongement du récit. Et où il raconte en gros quelle est la prochaine génération d'humains. Donc un de ses héros, glauque à la Welbeck comme toujours, sombre, tout ça, et biologiste, je crois. Et il invente, et c'est un peu sous-jacent dans le roman. On sait qu'il bosse, mais on ne sait pas bien ce qu'il fait. Il invente le truc qui en gros enlève le vieillissement, abolit le vieillissement, et donc ça mène à la création de la prochaine génération d'êtres humains immortels. Et donc c'est juste un chapitre à part comme ça, qui peut même se lire indépendamment du reste, où Welbeck explique la relation de ces immortels avec les humains d'une façon extrêmement bienveillante, ce qui est assez rare en science-fiction. C'est-à-dire que souvent les intelligences artificielles nous foutent sur la gueule, ou s'il y a des immortels quelque part, ils asservissent les mortels et tout ça. Là non, il dit voilà, l'humanité a créé sa prochaine génération, donc ses enfants en quelque sorte, même si c'est pas des enfants au sens procréatif du terme. Et donc l'humanité, voyant qu'elle a fait une belle création, se reproduit de moins en moins et s'éteint tout doucement, laissant la place à cette génération d'immortels. Je pose le bouquin, on était dans le train, je prends une feuille de papier, je me dis ok, pour moi l'immortalité c'est quoi, et je change le de paradigme, quoi. J'invente une autre forme d'immortalité qui est pas si inventive que ça, mais c'était quand même en 95 je pense, donc Matrix n'était pas sorti, c'était beaucoup moins populaire à l'époque. Donc je pose mon truc, j'écris une nouvelle. Bon, c'était un peu après 95, mais peu importe. J'écris une nouvelle qui raconte mon histoire d'immortalité. Je la propose dans des anthologies, tout ça. Complètement refusée, c'est nul. Retourne, va jouer ailleurs. Et puis j'ai des copains qui me disent « Putain, c'est intéressant, c'est ton univers, ton hypothèse, tu devrais faire autre chose. » Donc je dis « Bah ok, pourquoi pas. » Donc je commence à raconter, je casse le truc, je me dis, littéralement d'ailleurs. Je casse le truc, je démarre à côté une histoire qui est liée, et je commence à poser trois personnages qui réagissent à une situation initiale. J'avance, je fais avancer mes personnages, et au bout d'un moment je me dis, putain, ça pourrait peut-être être un roman ce truc là et je me souviens très bien, j'étais en vacances, je pose le, donc il y avait quoi, 15 chapitres peut-être qui existaient, et je me dis bon allez, comment je finis cette histoire. Je déroule tout en une nuit, en gros c'était quasiment évident, et puis là le miracle arrive. La nouvelle que j'avais écrite au début, je comprends qu'elle va fermer le roman en fait. Et donc, comme Welbeck, si vous l'avez lu ou si vous le lirez, vous verrez, il y a un chapitre à la fin de mon roman qui est en rupture assez fondamentale avec le reste, assez bizarre. On me le reproche parfois d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est ça la genèse de Eternity Incorporated.
À l'intérieur de ce roman, la musique a une place un peu spéciale, je trouve. Ça fait partie de tes... comment dire, de l'harmonie dans ta vie, ou c'est...
Ça fait partie, oui.
Attends. Vas-y. Ou c'est aussi une volonté délibérée d'introduire l'art d'une façon ou d'une autre dans ton œuvre. Parce que d'un côté, tu as la sociologie de la science, tu as cette anticipation, mais l'art aussi.
Ouais. Effectivement, donc il y a un de mes trois personnages est DJ, il fait de la musique électronique planante, hallucinogène quasiment. Et alors la musique, c'est une grande frustration dans ma vie en fait, parce que j'en fais pas. J'aurais bien aimé en faire. Enfin, j'ai vaguement fait du piano quand j'étais adolescent, c'était une catastrophe. Et c'est vraiment une frustration. Je pense c'est un truc que j'aurais adoré faire. Par contre, j'en écoute énormément. J'ai dans plein de styles différents. J'adore ça. J'en écoute pour écrire souvent. J'écris en musique, donc c'est hyper prenant. Et alors après, pragmatiquement, j'écrivais. C'est con, hein, mais j'écrivais. J'ai pas mal écrit. Alors, avant de bosser au CERN, je bossais aux États-Unis, donc je faisais des allers-retours aux États-Unis assez fréquents. Et j'avais la chance que mon employeur, qui est vous, hein, c'est l'État, donc c'est vos impôts, merci, m'envoyait aux États-Unis pour faire des réunions et me disait mais les billets d'avion sont beaucoup moins chers si tu restes le week-end. Et donc je restais le week-end à New York, c'est pas plus mal, hein. Merci. Pour faire économiser de l'argent à l'État. Et j'avais un copain à New York qui est un alter ego de mon personnage, qui lui-même était DJ là-bas, et donc on est pas mal sortis dans des soirées relativement psychédéliques qu'on retrouve dans le roman. Donc il y a à la fois la raison de mettre de la musique, elle est conjoncturelle, c'est parce que c'est des trucs que j'expérimentais à ce moment-là, la raison de mettre de l'art, elle est moins conjoncturelle, parce que je voulais vraiment que ce personnage-là... Donc au début du roman, tous mes personnages retrouvent leur liberté. C'est un peu comme si demain, le monde dans lequel on vit s'effondrait. On peut imaginer un krach boursier majeur, pas une petite fluctuation, comme on essaye de nous faire croire qu'il y en a tout le temps. Mais un truc vraiment fondamental. Il n'y a plus d'argent, c'est le bazar. Et donc, on est confronté à nous-mêmes et on décide de ce qu'on fait. On nous rend notre liberté. Et ce personnage-là... sa liberté retrouvée, c'est vraiment d'expérimenter les choses auxquelles il n'avait pas accès avant, qu'il n'avait pas le droit. Il est libertaire, complètement libertaire. Et donc, comme mon monde était assez aseptisé et sans art, il expérimente l'art. Après, il aurait sans doute pu expérimenter un autre art. La musique, c'est essentiellement lié au fait que c'est conjoncturel, comme je disais.
Et alors, dans le tome suivant, Thinking Eternity, tu peux nous expliquer ce qu'est le thinking, une nouvelle forme de religion, cette fameuse spiritualité du 21e siècle?
Ouais, j'espère pas quand même. Enfin, si, mais si.
Mais donc, spirituel veut pas forcément dire intelligent, hein,
ouais,
attention.
Ouais, oui, je suis d'accord. Justement, c'est un peu ce que je dis, je crois. Non. Donc, le deuxième tome, ils sont liés les deux, mais on peut les lire séparément. Donc, après avoir écrit cette histoire, qui se passe dans un monde post-apocalyptique, j'ai eu très envie d'écrire comment on arrivait à cet apocalypse. En partant essentiellement d'aujourd'hui, donc ça c'est le deuxième, Thinking Eternity. Et puis je me suis dit, je peux pas raconter que ça, sinon ça va être chiant pour les gens qui ont lu le premier. Et donc j'ai doublé d'une autre histoire qui est justement le Thinking. Alors le Thinking, c'est un mouvement qui est créé par un de mes personnages un peu malgré lui, et qui consiste essentiellement à raconter la science à tout le monde, mais à tout le monde vraiment, ce qui est pas du tout fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez accès à la science si vous êtes un minimum cultivé, si vous vivez un minimum au bon endroit sur la planète. Et donc là, mon personnage, encore une fois, malgré lui, il le veut pas, mais ça le dépasse et il aime, in fine, il aime ça. Il se retrouve à commencer à raconter la science dans des endroits où elle n'est pas vraiment arrivée, où on ne l'explique pas. Alors ça démarre en Afrique, mais ça pourrait être ailleurs. Hein. Il continue en banlieue, donc il n'y a pas du tout de jugement là-dessus. Donc il démarre ça et ça marche. Alors ça, c'est là que j'espère que ça pourrait marcher, c'est-à-dire que les gens adorent, ils adorent qu'on leur raconte l'histoire de la création de l'univers, de la création de l'homme, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit et tout ça. Et donc le mouvement prend de l'ampleur petit à petit. Alors il est relayé par des gens, il a des espèces d'éminences grises, des mentors avec lui, sinon il n'y arriverait pas. Et le truc prend une ampleur énorme, essentiellement grâce à Internet. Il invente deux moyens de communication. Il y a un truc que j'appelle Thinkopédia. Donc c'est Wikipédia, mais avec un niveau d'entendement ajustable. C'est-à-dire que si vous allez sur Wikipédia, vous ne comprenez pas l'article. Il y a un curseur, vous descendez, maintenant vous comprenez l'article. Le truc est adaptatif. Et puis si vous ne savez pas lire, ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui vous le lit dans votre langue de naissance et qui vous explique le chose. Donc ça, c'est le point clé qui fait qu'il diffuse la science. Et puis l'autre, c'est une forme de réseau social, mais c'est moins important dans l'histoire. Donc le thinking, c'est ça, ce serait l'idée qu'on arrive à créer, alors c'est peut-être une spiritualité, oui, enfin en tout cas qu'on arrive à informer les gens de l'état de la science, c'est-à-dire qu'ils aient une idée de où on en est précise, tout le monde, hein, de où on en est précisément de la science. Alors évidemment, le truc marche sur le terrain des religions, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, dans plein d'endroits, ça remplace les religions, avec les mêmes préoccupations, c'est-à-dire d'où on vient, qu'est-ce qui se passe après la mort. Bon, en l'occurrence, justement, il y a un débat d'ailleurs dans Thinking, il dit qu'est-ce qui se passe après la mort, et le mon héros il dit je sais pas. C'est à vous de c'est à chacun dans son âme et conscience de réfléchir à ça. Donc il marche sur donc c'est ça le Thinking, c'est un mouvement scientifique avec de fortes connotations religieuses. Alors évidemment, je développe tous les problèmes que ça pose, le dogmatisme, le fanatisme et tout ça. Il commence à y avoir des fanatic thinkers. Les thinkers, c'est les gens qui pratiquent le thinking. Et donc mon personnage déteste ça, mais bon, il est obligé de... Et alors ça, j'ai eu l'idée, si tu veux savoir. Alors c'est,
oui.
Ah ouais, c'est presque mieux que le train. J'ai eu l'idée après avoir marché 70 km le long du lac Tanganyika en Afrique. Donc j'y étais, quoi, et c'était fatigant. On a fait ça en 2 jours et on était crevés, puis j'étais sur un camion brousse pour rentrer vers la civilisation. Et il se trouve que dans mon métier, mon premier étudiant était éthiopien, c'est le premier polytechnicien d'Afrique orientale, non francophone, mais peu importe. Et je me disais, putain, mais il pourrait revenir ici et raconter à tout le monde ce qu'il sait, quoi, ce qu'il a appris, ce qu'il sait, ce serait bon. Et voilà, donc c'est comme ça que le thinking a démarré, un peu en condition, quoi. Bon, je ne l'ai pas fait, moi-même, mais parce que je ne parlais pas la langue.
Tu vois demain comme ça ?
Ah bah non, je vois pas, malheureusement, je suis, bon, tu sais que je suis assez pessimiste parce que tu as lu les bouquins, ils finissent pas très bien en général. Non, je, malheureusement, je vois pas demain comme ça, mais j'aimerais bien, ouais. J'aimerais vraiment bien qu'il y ait comme ça à un moment, qu'on arrête. Alors c'est, le problème, c'est pas, même pas forcément la religion, c'est peut-être le. Enfin, si c'est la religion du fric ou des choses comme ça, je pense. On va s'aventurer vers la politique.
Greed, l'avidité.
Greed, voilà, exactement. Et puis aussi le fait qu'on abandonne la majorité de la planète. Hein. C'est les gens à qui le thinking s'adresserait, ils sont majoritaires, en fait, sur la planète. Nous, on est minoritaires. Nous qui sommes ici aux Utopiales et qui avons accès à un contenu scientifique assez balèze, on est minoritaires, quoi. Donc, oui, j'adorerais qu'à un moment. Alors, ça peut arriver, hein. Un des problèmes, c'est qu'Internet, qui aurait pu vraiment faire ça, a une fracture numérique importante. C'est-à-dire, il y a Internet. Oui, Internet arrive partout dans le monde de plus en plus, mais avec des bandes passantes qui ne sont pas les nôtres. Et nous, on développe des systèmes d'information qui demandent des bandes passantes de plus en plus grandes. Et donc, la distance numérique entre les gens, on peut penser... Bah, évidemment, les gens ont accès à des choses auxquelles ils n'avaient pas accès avant, mais il reste quand même une fracture numérique qui est assez importante. Donc, les gens n'ont pas accès à toute l'information, même si on voudrait penser rapidement qu'ils l'ont, quoi.
Oui, enfin, les réfugiés ont des portables, tout le monde se scandalise comme s'ils utilisaient mal leur argent, mais en fait c'est un instrument de survie presque bien plus fondamental que, je sais pas, un couteau de poche ou quelque chose de ce genre. Maintenant la fracture numérique devient quelque chose d'énorme.
Et rien qu'à voir, si on leur enlève leur portable, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en acheter un autre tout de suite, quoi. Ils quittent les Utopiales pour aller acheter un portable.
C'est ce que j'ai fait à l'arrivée parce que j'ai cassé le mien. Alors, pour Thinking Eternity, souvent, il me semble que tu l'avais fait aussi pour Eternity Incorporated, tu as un site dédié. Et j'ai vu les photos des lieux de Thinking Eternity. J'ai vu dans une interview que tu avais peur aussi un petit peu de faire guide touristique. Parce que dans Thinking Eternity, il y a... chaque fois des lieux bien identifiés mais très éloignés les uns des autres, ce qui donne une impression très vite, celle que nous connaissons en fait, de village global, et c'est fait exprès, enfin à moins que tu m'arrêtes. Et là, Raphaël, sur son site, a mis des photos de ces lieux, où tu es certainement allé, puisque souvent on t'y voit. Je me souviens qu'il y a un endroit où c'est pas loin de chez nous, puisque à une époque on a été voisins. Donc est-ce que c'est quelque chose, ça je repars sur le guide touristique, t'as pas envie, mais alors dans ce cas-là, pourquoi nous donner à voir tout ça?
Ouais, alors le site web, c'est bien que t'en parles parce qu'il y allait pas aujourd'hui, il marche pas, mais j'ai rencontré quelqu'un hier qui me l'a réparé, donc je vais réparer tous les liens ce soir, je pense qu'il remarchera demain. J'ai eu chaud parce que vraiment mon provider est tombé et j'ai pas réussi à faire la migration tout seul. Bref, c'est un détail. Donc le site web, non, il vient de la musique avant tout. Donc pour revenir, mon copain DJ dont je te parlais tout à l'heure, il a fait de la musique qui a complètement abreuvé mon écriture. Et donc j'avais la musique de Sean, j'avais la musique de mon personnage de Eternity Incorporated. Et c'est pour ça que j'ai fait un site web. Je lui ai demandé la permission, il était d'accord. Son nom apparaît nulle part, il veut pas. C'est Sean, quoi. On a fait un site immersif où on prétend que Sean existe et où la musique est proposée. Et alors après, j'ai voulu dériver un peu ça pour les autres personnages. Donc pour chaque personnage, j'ai inventé un peu un truc à faire. Et effectivement, il y a une de mes personnages de Thinking Eternity qui fait les photos des endroits du roman. Donc c'est pas. Je voulais pas faire guide touristique. Ma première volonté, c'était de faire guide musical un peu. Et c'est pour ça. Et t'as raison, tous les endroits de Thinking Eternity, à part les mondes virtuels et dont Neptune, j'y suis allé, ouais. J'ai eu de la chance de pas mal voyager, à la fois pour mes vacances comme passion, et puis pour le boulot aussi pas mal. Les conférences dans mon métier sont un peu partout sur la planète, ce qui permet de voir des endroits assez variés, quoi. Donc je crois, ouais, il y a aucun endroit dans Thinking Eternity où je suis pas allé.
Donc du coup, c'est plus une mise en image de la musique que un rappel de ce qu'il y a à l'intérieur du roman, des endroits du roman.
Ouais, alors je l'ai fait en deux temps le site. J'ai d'abord fait la partie Eternity Incorporated où là il y a des photos aussi, mais des photos qui sont faites par un copain à moi qui est photographe de lieux désolés, puisque c'est post-apocalyptique, donc il avait pris des lieux désolés, donc j'ai mis quelques photos de lieux désolés. C'était pour compléter le triptyque. J'ai un autre personnage qui est webmestre, mais peu importe. Et donc les photos de Thinking Eternity, je les ai rajoutées après. Et je, bah oui, ce que je dis, c'est, je mets mes trois personnages, je me dis il faut que je leur trouve quelque chose à raconter sur le site. Et bah oui, comme j'ai des photos de la plupart des endroits dans lesquels je suis allé. Alors ce qui était marrant, c'est de me replonger dans les photos de vacances ou autres, et de découvrir des, de découvrir que je m'étais, que je me souvenais de choses de façon un peu inconsciente. Je me retrouvais des photos de trucs. Ah mais ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est dans le roman. Je l'avais mis dans le roman de façon inconsciente, mais en fait, j'ai des photos qui correspondent à des éléments. Et puis ça permet aussi de mettre des petits extraits. En, en dessous de chaque photo, j'ai mis des petits extraits, du tout petits extraits, hein, une phrase du roman pour.
Pour l'ouvrage sur lequel nous avons travaillé ensemble, oui. Le Jules Verne, il y a eu aussi une, un travail multimédia. C'est quelque chose auquel tu tiens ou.
Il y a eu un, ah oui, le travail multimédia après, oui, bien sûr. C'est pas nous qui avons fait ça.
Non, c'est pas, il y a eu ouais, aussi.
Ouais. Non, non, j'y tiens pas forcément. Il y a pas de. À mon avis, il y a beaucoup de choses à faire en transmédia, on va dire. Mm. Mais faut pas se forcer non plus, c'est-à-dire faut pas. Il y a des projets pour lesquels c'est, ça, ça s'applique bien, où il y a des choses à faire. Le transmédia à tout prix, à mon avis, c'est pas. Il faut. Pour moi, le fond doit vraiment justifier la forme dans une certaine mesure.
Est-ce que t'as déjà lu un ouvrage qui te satisfait, lu et transmédié, je sais pas comment dire, un ouvrage qui te satisfasse sur ce plan-là, sur les attentes qu'on pourrait avoir sur ce type d'ouvrage.
Sur le transmédia.
Ouais.
J'en ai pas lu beaucoup, bah, à part les nôtres, non.
Les nôtres, ça compte pas.
Non, honnêtement, je me suis pas documenté moi là-dessus tant que ça. Moi, je lis des vrais livres, enfin entre guillemets. Mais non, ouais. Non.
Je sais pas. Bah, en fait, c'est intéressant comme ça qu'à titre de jeu, mais pas pas plus que ça.
Non, c'est il faut encore. Si ça peut, le il y a des tentatives de. Parce que c'est à la mode de passer des romans ou des choses comme ça en transmédia. Moi, je trouve que c'est souvent. Enfin, le peu que j'en ai vu, j'ai l'impression que ça va pas bien loin, quoi.
Non, mais c'est ce que je veux dire.
Ouais,
c'est,
alors ça, qu'au contraire, si on va dans le transmédia, allons-y, quoi. Inventons des histoires chorales avec beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs, de la musique, du son. Enfin, ouais, non, du son, c'est pareil. Des images, du texte. Pourquoi pas de la lecture? Pourquoi pas des performances? Il faudrait vraiment aller. Il faut aller loin, quoi.
Oui, bah c'est pas très loin avec le visual novel, ça peut encore, ouais. On s'en approche là. Alors, à quand le troisième tome, du coup? Ça, c'était la question piège parce que je connais la réponse.
Ouais, ouais. Donc, alors je me suis convaincu qu'il fallait que j'écrive un troisième tome à mes deux là, qui finira bien, je vous promets, sauf si j'y arrive pas. Donc ça avance doucement, hein, mais pas suffisamment vite. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Ouais, au moins un an, quoi, mais peut-être un peu plus.
Et tu peux nous parler un petit peu du thème ou de
ouais.
L'argument?
Oui, oui. Alors d'abord, on va faire un peu de publicité, puisque comme mon roman prenait trop de temps, mon troisième roman prenait trop de temps à écrire, j'en ai mis un petit peu dans l'anthologie des Utopiales, qui est en vente chez ActuSF en dessous. Donc j'ai mis c'est un zoom sur un de mes personnages d'avant, mais on découvre un petit peu de ce qui lui arrive après, donc c'est un petit peu une transition. C'est indépendant, mais ça prolonge un petit peu l'histoire. Dans le troisième, ce que j'ai envie, le thème principal que j'ai envie de traiter, c'est la survie. C'est-à-dire, quels sont nos fondamentaux, quoi. C'est difficile d'en dire beaucoup plus sans spoiler complètement le deuxième, mais imaginez que demain, comme je disais tout à l'heure, demain, quelque chose de catastrophique nous arrive, mais vraiment catastrophique. Hein. Et, par exemple, on perd l'électricité. Je dis un truc comme ça, on perd l'électricité, c'est, on n'a plus de moyens de produire l'électricité. Bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on préserve? Quelles sont nos priorités? Ou imaginez que la population est divisée par 1000. Donc imaginez ici combien on reste si on enlève 999 personnes sur 1000. Et comment on continue, c'est-à-dire comment on se recentre sur nos fondamentaux, quels sont les trucs les plus importants pour notre survie qu'on a oubliés. Alors évidemment, il y a les trucs classiques, hein. En tout cas, moi, je sais pas me faire à manger. Enfin, si, je sais me faire à manger, mais une fois que c'est processé avant, mais je sais pas élever des animaux, je sais pas planter des carottes. Je pense que les carottes, ça doit aller, mais limite, hein. Je sais pas fabriquer mes vêtements. Voilà, il y a plein de choses que je sais pas. Donc toutes ces choses-là, j'ai envie de parler de ça, quoi, de vraiment essayer, donc dans un contexte complètement science-fictionnel, de faire une espèce de minimisation totale, quoi, de vraiment nous ramener à ce qui est le plus important, quoi.
D'accord.
C'est ça le thème très général.
C'est une décroissance.
Ouais, ouais.
Mais brutale.
Ah bah très brutale, ouais, parce qu'il reste plus grand monde, quoi.
Alors tu es également directeur d'ouvrage, c'est quelque chose. Non, je... le temps ne rend pas compte de l'enchantement qu'a été notre travail ensemble. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est comment tu es passé. Enfin, j'avais eu l'impression, pendant la rédaction du Jules Verne, on a fait un bouquin qui s'appelle Un an dans les airs, qui raconte une histoire, un voyage rêvé de Jules Verne, dans une cité volante avec des ballons. Et donc on a travaillé à trois auteurs.
Quatre.
Je ne sais pas qui j'oublie. Et non, un dessinateur, quatre, ouais. L'immense Nicolas,
enfin,
Fructus.
Trois plus moi, plus Nicolas. Ok, Johan, Raphaël. Ouais, vous
ah
étiez
voilà,
trois.
C'était Johan que j'ai
vous
oublié.
Vous étiez trois, plus
j'ai,
moi, plus...
J'ai oublié Jules Verne, mais je sais pourquoi. C'est parce que, justement, vous allez voir. Et donc, dans le roman, pendant que nous échangeions pour écrire chacun nos parties d'histoire, j'avais vraiment l'impression d'être dans un jeu de rôle. Et ouais. Mon personnage se frittait la gueule systématiquement avec Jules Verne. C'est sans doute pour ça que j'ai oublié Johan, parce que c'était lui, c'était Jules Verne. Donc, un des trucs que j'ai envie de te demander, c'est que ça fait partie de ce qui se passe systématiquement avec les Ouroboros. Les auteurs se retrouvent pris dans le jeu.
Ouais, complètement. Et ça a même été pire avec le dernier. Donc c'est lié à la genèse du projet qui vient du jeu de rôle en fait. Hein. C'est le premier Ouroboros s'appelle Abîme. Il est tiré des romans de Mathieu Gaborit. Et il avait été conçu comme un guide de tourisme justement d'une ville imaginaire. Donc à destination à la fois des gens qui font du jeu de rôle dans cette ville imaginaire, donc pour eux c'est bien, ça peut leur servir, ils peuvent le regarder pour se balader dans la ville, c'est utile, c'est comme si eux ils étaient dans la ville, mais on avait le pari de le vendre aussi à des gens qui connaissent pas du tout le jeu de rôle, donc il fallait évidemment que ça raconte aussi une histoire, donc ça c'était Abîme. Ensuite on a fait Kadat et Un an dans les airs, et à chaque fois, parce qu'il y avait Abîme au début, il y a cette inspiration du jeu de rôle qui est claire. À chaque fois, on prend le pari que chaque auteur incarne un personnage différent. Donc, évidemment, on est dans le jeu de rôle. Hein. Et très vite, donc c'était particulièrement vrai pour Un an dans les airs parce qu'on habitait, personne n'habitait au même endroit. On était très éloignés les uns des autres. Donc, on ne fonctionnait que à distance par mail. Et très vite, et je ne sais pas si c'est moi qui ai inspiré ça ou si ça s'est même imposé.
C'est Raphaël qui a commencé.
Et Raphaël Albert, qui est un rôliste aussi invertébré, invétéré. Très vite, l'échange entre les auteurs, ben non, ils signent avec leur nom de personnage, quoi. Salut Jules, machin. À tel point, on est allé jusqu'au moment où il y a la petite anecdote rigolote où.
Je te laisse ta responsabilité de la raconter.
On en parle, mais je me suis passé de m'en souvenir très précisément. Où Nicolas Fructus, donc le dessinateur, avance une photo du personnage de Jeanne avec. Enfin, nu. Oui, bien nu hein, quand même.
Oui, bien à point.
Bien nu.
Oui.
Et donc je fais une petite blague comme ça en tant que personnage, Pascal Grousset, en disant cacher ce sein que je ne saurais voir ou une formule du style.
Non, non, j'avais pas vu la photo.
Oui,
le truc c'est
voilà.
Ça, c'est que j'avais pas vu la photo, j'avais loupé un mail.
Et Jeanne s'offusque, mais elle avait pas vu la photo.
Voilà. Et en fait, il finit une lettre par je t'embrasse sur le sein gauche. Enfin, Raphaël.
Non, tu n'as pas dit enfin Raphaël, tu as dit enfin Pascal.
Voilà. Mais que vous prend-il ? Et après, je trouve la photo et je comprends. Mais c'est vrai que sur le moment, il y a eu des moments de discussion où je me suis dit, heureusement que nos compagnons et compagnes sont au courant de ce qu'on fait ensemble. Parce que sinon, on aurait eu de très graves problèmes.
Ah, j'ai des dossiers comme ça sur chacun des auteurs de Robor. Et dans le dernier, jadis, là, on a poussé le truc vachement plus loin parce qu'on a carrément fait un jeu littéraire. C'est-à-dire que Nicolas nous a amené une illustration, il nous a dit prenez un personnage, commencez à raconter une histoire, n'importe quoi. Chaque auteur est parti dans son coin sans savoir du tout ce que les autres faisaient, a démarré son histoire. Au milieu du bouquin, on fait une rencontre entre tout le monde. Alors c'est une rencontre entre leurs personnages, mais on l'a faite en vrai. Et l'histoire se déroulait de telle sorte que la rencontre avait lieu pendant une pièce de théâtre que mon personnage écrit. Et on l'a fait en vrai, c'est-à-dire que Nicolas et moi, on a fait venir les auteurs chez Nicolas et on leur a lu la pièce de théâtre. Donc la confusion, la mise en abîme est totale. La confusion entre l'auteur et le personnage est totale. Donc c'est un peu une règle des ouroboros, de ces ouroboros-là. Après, dans la collection, il y a d'autres choses qui sont un peu différentes. Mais c'est une méthode. C'est une méthode d'écriture un petit peu qui s'est imposée pour au moins 4 d'entre eux et qu'on travaille pour d'autres, pour l'avenir, quoi.
Et chaque fois, tu es maître de jeu ?
J'ai été maître de jeu sur 4, ouais. Et j'espère que ça va pas durer parce que ça prend du temps et je voudrais bien que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, mais...
Ne me regarde pas comme ça,
non,
je
ne
suis
non,
pas
non. Tu regardes comme ça parce que tu es là.
Et alors tes projets là ? Ce roman que tu...
Ouais, bon, non, c'est le projet absolu principal. Il faut que je termine ce roman, quoi. au niveau littéraire, c'est le truc qu'il faut que je trouve du temps pour faire ça un peu plus et puis que je finisse, quoi.
Tu l'as promis.
Je l'ai promis, ouais. En vrai, je fais des nouvelles. Entre-temps, ça prend aussi pas mal de temps, quoi. Mais...
D'accord. Eh bien, on va laisser éventuellement la parole au public si vous avez envie de poser des questions à Raphaël Granier de Cassagnac. Méfie-toi, il est sérieux, celui-là. Je l'ai eu en dédicace. Il pose des vraies questions.
Comment vous arrivez à gérer le temps entre la recherche et l'écriture ?
J'y arrive pas. C'est pour ça que le roman est en retard, évidemment. Hein. Non, j'y arrive pas. Donc j'écris la nuit, pendant les vacances, dans les trains. Là, tout à l'heure, j'ai bon espoir de réussir à écrire un chapitre du roman en rentrant des Utopiales. Mais non, je manque de temps, oui. C'est très. Alors, comment je le gère ? Il faut. Par exemple, cette année, j'ai pris systématiquement, parce que j'ai la chance d'avoir épargné des vacances, j'ai pris systématiquement un jour de vacances par semaine. Donc, je travaillais à 80%. Donc, voilà, un jour bien identifié dans la semaine, donc pas le week-end, où j'essaie d'écrire un peu plus, quoi. Mais, et pour produire, il fallait que j'en arrive à ça, ouais. Mais c'est ingérable. En plus, j'ai une famille, donc c'est compliqué.
C'est quoi tes rituels d'écriture ? Puisqu'apparemment, ça a l'air un peu chaotique. Le train, les vacances.
Ouais, les rituels. J'écris pas chez moi, ça c'est un truc assez clair. J'ai besoin d'être soit dans un train, soit dans un café, soit en vacances. En vacances, par exemple, je me lève plus tôt que ma famille, genre à 5h du mat et j'écris. On a tous un peu nos trucs un peu bizarres comme ça, les auteurs.
C'est pour te mettre dans un ailleurs.
Tout à fait, ouais. J'ai besoin d'être ailleurs, ouais. J'y arrive un peu à écrire chez moi. Enfin, j'arrive à finir des choses chez moi. C'est-à-dire que j'ai commencé ailleurs et puis bon, il faut reprendre un chapitre, modifier des trucs, ça va. Mais le vrai processus créatif, il est plutôt ailleurs. Ouais. Je pense que c'est vrai, ça. D'ailleurs, je fantasme complètement de claquer la porte de mon vrai métier. Faut pas leur dire, ils écoutent pas. Pour me mettre ailleurs pendant un an et ne faire que ça, quoi. Ce serait bien. Après, ça paye pas.
D'autres questions ?
Sauf si vous achetez beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres.
Voilà. Et d'ailleurs, ils sont en bas à la librairie, hein, je pense. D'autres questions dans le public ?
Vas-y, vas-y.
Qu'est-ce que vous pensez de la diffusion des articles de la recherche scientifique actuellement ? Est-ce que vous trouvez que c'est bien fait ? Qu'est-ce que vous pensez des sites comme SciHub ?
La diffusion des articles scientifiques, non, c'est pas très bien fait, je pense. Justement, mon histoire de thinking, ça vient aussi d'une certaine frustration de ce côté-là, je pense. Non, c'est pas terrible. Ça. Après, parmi les scientifiques, je suis un de ceux qui sont le moins gênés par l'inexactitude des articles journalistiques, parce que les journalistes prennent des libertés violentes. Avec ce qu'on fait, et à la limite tant mieux, parce que c'est eux qui connaissent leur public, donc de ce côté là je suis assez je suis un des plus tolérants, mais néanmoins je trouve que c'est pas bien fait. Non, mais il y a eu l'histoire, par exemple, nous on a cru voir une nouvelle particule il y a quelques temps au LHC. Science et Vie a fait une couverture énorme dessus, a changé le format, donc on le lisait plus comme ça mais comme ça, pour ce non-événement. Parce que nous, on avait été honnête, on avait dit voilà, tout ça c'est statistique, nous on fonctionne de façon statistique. Donc il y a des probabilités qu'on ait raison, qu'on ait tort, et on connaît ces probabilités. Et donc là, on était à un niveau de probabilité où nous on disait bah voilà, on en est là et on peut tout à fait avoir tort. Enfin, c'est pas on peut pas avoir tort, mais il y a une forte probabilité non négligeable que ce qu'on voit ne soit rien. Voilà, les journalistes ont pris le relais du truc, ça fait du buzz énorme. Et à la fin, il y avait rien. Et donc à la fin, la vérité scientifique, le fait qu'il y avait rien, a pas du tout fait de buzz. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je pense pas mal de gens, de lecteurs de Sciences et Vie lambda, qui pensent qu'on a découvert une nouvelle particule, alors que c'est pas vrai. Dommage.
Oui, il y a les effets d'annonce, mais il y a aussi la façon dont les articles scientifiques sont captés par les périodistes scientifiques, ouais, qui atteignent des prix effarants pour nos bibliothèques universitaires. Ah, oui. Tu vois, le partage des informations... C'est un vrai crève-cœur et il y a quelque part une appropriation du travail des scientifiques qui vaut le vol intellectuel pur et simple.
Alors, dans mon domaine, ça existe très peu, ça, en fait. C'est pour ça que oui. Je suis pas spontanément, c'est pas une chose dont je parle le plus. Parce que dans mon domaine, vous savez que le CERN a plus ou moins inventé Internet, parce que c'est une communauté de gens de plein de pays différents qui avaient besoin de partager de l'information et qui avaient les moyens de partager cette information avant nous. Donc, c'est né il y a pas mal de temps là-bas. Et donc, entre autres, une des choses qu'on fait, c'est que nous, tous nos articles qu'on envoie aux journaux officiels très chers dont tu parles, ils sont aussi sur Internet en même temps qu'on les envoie. Donc, ils sont disponibles dans la version qu'on envoie aux journaux en ligne depuis 90, je pense, quelque chose comme ça. Et des gens ont même numérisé les articles d'avant. Donc, pour nous, tout est disponible dans une version qui est... Alors, elle n'est pas forcément 100% fiable parce que le journal, la fonction principale du journal, c'est quand même de faire relire les articles par des professionnels, de les valider dans une certaine mesure. Donc on trouve sur notre banque de données de papier des papiers qui ne sont pas validés par la communauté, c'est le danger. Mais en même temps, c'est complètement gratuit. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller regarder tous nos articles. Tout ce que j'ai signé scientifique, c'est sur le web, libre d'accès.
Et ben, c'est toujours le thinking, là.
Hein, on et oui, c'est peut-être plan. Ça qui nourrit mon histoire de thinking. Ouais.
Eh ben, on va te remercier.
Ben, je t'en prie.
Et vous pouvez retrouver Raphaël Granier de Cassagnac et ses deux magnifiques romans, dont l'un a eu le prix du lundi et l'OE.
L'autre, il a juste été nominé au prix européen l'année dernière.
Voilà.
Mais il ne l'a pas eu.
Et qui sont très bien et que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci.
Et c'est à la librairie, là. J'y vais tout de suite.